Bienvenue, entrez, vous entendrez. Il y a un B, puis un autre B, c'est Black and Blue. La réalisatrice de l'émission, un peu magicienne, un peu montreur d'ours, cela commence par un F comme Françoise, et cela finit par Y comme Corday. Notre ingénieux du son, un I au début et un U à la fin comme inconnu, à moins qu'il faille remplacer ces lettres par A et E comme dans Anonyme. Alors, aujourd'hui, qu'avons-nous au menu ? Une leçon de Kenny Werner. Quelqu'un a chaussé ses lunettes à double foyer pour lire la maîtrise sans effort du pianiste, publiée aux éditions Uncle comme oncle jazz. Et ce quelqu'un, c'est
Georges Pazinski.
Bienvenue à vous, mon cher.
Merci, Alain.
J'avais entendu parler de Kenny Werner depuis un certain temps déjà. La première fois que j'ai pris conscience d'avoir affaire à un artiste de grande envergure, ce fut au milieu des années 80, lorsque certains enregistrements l'associèrent à Archie Shepp, tandis qu'il rejoignait cette élite avérée que constituaient les membres du big band de Thad Jones et Mel Lewis. Et puis, il y eut, en 1989, publié par Françoise Alakin, son catalogue Sunnyside, ce disque sous son nom qui était sa troisième réalisation personnelle en 12 ans, preuve qu'il avait su se montrer discret, mais aussi son premier album avec contrebasse et batterie, les précédents se présentant comme des recueils d'improvisations solitaires. Introducing the Trio était, et très largement demeure, dans un genre très couru, pour ne pas dire surexploité, un disque qui ne ressemblait à aucun autre, même si, à travers des recréations telles que Nardist et Time Remembered, référence était explicitement faite à l'univers de Bill Evans. Si Kenny avait tenu à rendre hommage à ce dernier, il s'était imposé aussi de s'écarter de sa trajectoire, alors même que tout semblait l'inviter à la suivre au plus près. 3 ans plus tard, Jean-Jacques Puciot me demandait de présenter l'album All Unlimited, c'est-à-dire les œuvres d'un duo opérant sans section rythmique. Werner y rejoignait Lee Kanitz, lequel avait trouvé en lui un interlocuteur à sa mesure. Je me souviens avoir observé qu'en lui donnant la réplique, il parvenait à mieux nous faire entendre le monologue de Kanitz. Ça, c'est la définition d'un accompagnateur, lorsqu'il est exceptionnel. Plus tard encore, lorsque le même Puciot m'a invité à enregistrer quelques textes accompagnés par des jazzmen pour qui j'avais une estime particulière, le nom de Kenny Werner est tout de suite venu sur le tapis et c'est à lui qu'échut finalement la lourde responsabilité d'ouvrir le bal. Ce qu'il fit en prenant tous les risques par une mélodie improvisée en studio sur un signe de l'ingénieur du son transformé pour l'occasion lui aussi en magicien tirant de son chapeau le lapin de Lewis Carroll. 1999, Kenny a intitulé « Secret de la beauté », l'un de ses albums les plus ambitieux. On vient d'entendre une partie, mais l'émission n'a pas dit son dernier mot, de la pièce à laquelle il emprunte son titre en trio avec le contrebassiste Johannes Weidenmüller et le batteur Harry Hoenig. L'un de ses albums les plus sereins et l'un de ceux où il ne laisse ignorer à personne son amour de la musique classique, lequel ne saurait surprendre de la part d'un homme qui fut l'élève de la Manhattan School of Music avant de s'inscrire au Berklee College et de donner des concerts de ses compositions au Symphonic Space de New York. Depuis fort longtemps, il souhaitait élargir son territoire sans quitter pour autant le champ du jazz, ou du moins en le gardant à portée de regard. Dans ce disque, où à part deux standards, toutes les pièces sont de sa plume, il propose des œuvres qui en appellent explicitement à la tradition occidentale, mais en lesquelles l'amateur de jazz peut reconnaître des fragments de paysages familiers. De plus, même ce qui relève spécifiquement du jazz témoigne d'une approche esthétique qui prend plaisir à se diversifier. Ainsi, Werner demeurait-il à 47 ans l'un des pianistes les moins prévisibles de sa génération. Et il eût été fort déplacé de lui reprocher de n'avoir pas su choisir. Il s'obstinait à se chercher, veillant à ce que le mystère ait toujours une longueur d'avance sur lui, et laissant entendre à chacun qu'en définitive, le secret de la beauté ne saurait être que pluriel. Toute la beauté de la chose, en fait, consiste à le chercher et non pas à le découvrir. Le secret dévoile, la beauté mise en lumière se dessèche et s'étiole. La grande affaire est de le préserver tout en le faisant peu à peu sortir de l'ombre. C'est à quoi notre homme s'applique, et c'est peut-être bien, du moins je le suppose, l'un des principes qu'il inculque à ses élèves, car on ne saurait tracer son portrait sans souligner que la pédagogie est une autre de ses passions. En 1987, il a su la fonction de professeur de jazz à la New School de New York, tout en donnant quelques cours particuliers. Il anime des séminaires, des masterclass, des stages dans tout genre, qui, compte tenu de son humour et de sa bonne humeur, doivent rencontrer le plus large succès. On rappellera qu'il fut le maître de Brad Meldow. D'autres de ses protégés se feront probablement connaître au fil des ans. Quelles sont les bases et les lignes directrices de son enseignement? En quoi celui-ci se distingue-t-il de l'approche d'autres formateurs? Eh bien, peut-être en saurons-nous davantage sur la question en interrogeant mon partenaire de ce soir, qui donc a lu, depuis un an déjà, l'ouvrage dans lequel Kenny Werner a consigné, et si j'ai bien compris, condensé l'essence de ce qu'il transmet à ses élèves pour ce qui est de la technique pianistique, un opuscule intitulé, de manière assez provocante, il faut bien le dire, « La maîtrise sans effort », et que, je le rappelle, publié l'édition « Uncle Jazz » dans la version française. Voilà des mois que Georges me tanne pour que ces pages, paraît-il captivantes et même déroutantes sur les bords, soient inscrites à l'ordre de Black and Blue. Si j'y consens aujourd'hui, c'est pour éviter les lettres recommandées et le papier bleu. À part ça, connaissant un peu Kenny, l'homme, pas seulement l'artiste, j'avoue être curieux de ce qu'il a pu raconter. J'espère que mon sentiment sera partagé, y compris par ceux de nos auditeurs qui, comme moi, n'ont pas coutume de taper sur le ventre des claviers. Thank you.
Mon cher Alain, nous allons parler aujourd'hui d'un livre qui est absolument capital, pour ne pas dire un livre mais qui m'a passionné et qu'on peut relire, imaginez-vous, à différentes périodes de sa vie. Parce que je pense qu'un musicien qui est un peu débutant sera peut-être un peu dérouté. Quelqu'un qui n'est pas musicien y trouvera son compte. Quelqu'un qui a déjà 10 ans de musique dans le dos y trouvera un certain compte. Celui qui en a 20 ou 30, il trouvera encore autre chose, parce que bien entendu, la même phrase ne veut pas dire la même chose quand on a 20 ans, quand on a 30 ou quand on en a 40. Alors, simplement, la table des matières. Alors, c'est très simple.
Déjà, la table des matières. Déjà, moi, je vais déjà vous lire le titre, parce qu'il est quand même très, très provoquant. Oui. Vous savez, les médecins américains, les médecins qui s'occupaient des gens qui se trouvaient un peu gros dans la vie, avait une affiche qui disait « pas de sacrifice, pas d'effort, pas de résultat ». Bon, alors, on est un peu étonné, là, la maîtrise
non,
sans effort.
Mais il le dit d'ailleurs, le titre, c'est un pléonasme, n'est-ce pas ? Parce que la maîtrise exige un énorme effort. Seulement, dans la réalité, la réelle maîtrise, il faut l'obtenir sans aucun effort. C'est-à-dire que, voilà, alors, la table des matières. Très simple, une préface, une introduction. Le chapitre 2, mon histoire. Le chapitre 3, pourquoi jouons-nous ? Chapitre 4, transcender les objectifs restreints. Jusqu'à présent, rien de particulier. Cinquième, jouer inspiré par la peur. Deux points, la peur, l'esprit et l'ego. Sixième chapitre, répéter, inspiré par la peur. Septième, les dysfonctionnements de l'enseignement. Écoutez ça, Alain. Enseigner inspiré par la peur. Huitième, les troubles de l'écoute. Deux points, écouter, inspiré par la peur. Composer, le neuvième, composer, inspiré par la peur. Encore. Dixième, l'espace. Onzième, les fausses notes n'existent pas. Douzième, méditation numéro un. Treizième, la maîtrise sans effort. Puis méditation numéro deux, des affirmations, chapitre 15. Les étapes qui mènent au changement, le 16e. 17e, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, puis 21e, une réflexion complémentaire, le 22e chapitre, méditation, je suis excellent, je suis un maître, après 23, étirer la forme, et le 24, une dimension spirituelle avec une méditation qui conclut l'ouvrage.
En tout cas, alors, vous m'ôtez d'un doute, je comprends pourquoi il est venu à notre premier rendez-vous déguisé en camionneur. C'était pour m'inspirer la peur.
Alors, écoutez, d'abord, si on regarde la préface, dans la préface, tout est déjà dit. Écoutez, au sein de cultures moins civilisées, dit-il, tout individu est un musicien. Je vous laisse pour la réflexion. Hein. La plupart d'entre nous ont peur, et ce n'est pas notre faute. Nous avons été programmés pour éprouver la crainte de jouer. Un peu plus loin, un musicien n'obtient pas la véritable profondeur musicale en jouant mieux, mais en jouant de façon plus naturelle. Il faut apprendre à s'oublier, arriver à éliminer la pensée est donc très important. Autrement dit, tout l'ouvrage est fondé sur l'idée que l'intelligence va jusqu'à un certain point et que la suite, le relais est pris par un instinct qu'il faut favoriser, qu'il faut développer. Et de ce point de vue-là, s'il n'y a rien de nouveau là, mais seulement ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ça fait écho à d'autres livres. Alors, par exemple, j'ai retrouvé dans ma bibliothèque l'art de jouer du violon de Menuhin. Or, l'art de jouer du violon de Yehudi Menuhin, la première leçon, Alain, je vous le donne en mille, exercices préparatoires généraux. Et que se passe-t-il dans ces exercices préparatoires généraux ? C'est un cours de yoga. Position du corps, façon de respirer, se détendre, détendre le dos, détendre les mains, détendre la nuque, etc. Bref, autre ouvrage, Heinrich Neuhaus, l'art du piano, merveilleux professeur de Gilels et Richter, une manière d'aborder le clavier. Des réflexions que j'ai eues souvent avec notre ami Georges Plodermacher, justement sur la manière d'appréhender le clavier et toutes ces recherches que lui-même a menées si bien depuis si longtemps. Évidemment, le petit ouvrage dont on a parlé de temps en temps à ce micro, le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc. Et on s'achemine vers quoi ? Vers le yoga millénaire, les civilisations anciennes, un art de la méditation, accepter la mort, la musique et l'au-delà, retour à l'essentiel, vision du monde, vision de la mort, vision de la vie, et la phrase de Wittgenstein, il faut taire l'essentiel. Voilà, en gros, le panorama de cet ouvrage. Alors, on va aller petit à petit, si vous voulez bien, par petites tranches, parce que c'est extrêmement intéressant. Parce que d'où vient-il notre Kenny Werner ? Il vient pas comme ça. Il dit « J'ai grandi dans un désert culturel ». Alors je vous le donne en mille, la télévision, qu'est-ce que c'est pour lui ? La télévision et sa programmation contribuent davantage à la déshumanisation de la société que n'importe quel événement historique. La télévision à nous maintenir dans un état affamé, lubrique et aussi peu concentré que possible. Voilà pour la télévision. L'école. Alors, l'école. Un océan d'informations inutiles. Je vois rien. Attendez, attendez. La musique. La musique. Elle était prétexte à davantage de questions. J'arrive même pas à lire, parce que c'est tellement incroyable et tellement vrai, dans une certaine mesure. Elle était prétexte à davantage de questions auxquelles il fallait répondre, davantage d'examens à passer, davantage de réprimandes à essuyer, davantage de pression. Notre société était, et est toujours, alors voilà, là c'est le clou de l'affaire, l'univers prototype des émotions préemballées. De l'ennui fast-food, de l'apathie fraîcheur sauvage, de l'art voué à l'oubli, des prédateurs de la culture pop. Bref, comme le dit Robert Hugues, nous vivons dans l'empire de Donald Duck. Alors, vous voyez, alors ça commence comme ça. Alors, comment voulez-vous que quand on est musicien, quand on travaille la musique, on tombe sur la première page, c'est le chapitre 2, qui s'appelle donc Mon histoire. Alors vous comprenez, quand vous voyez déjà ça, c'est, vous avez envie de continuer. Vous me l'accorderez, n'est-ce pas là ? Vous me l'accorderez. Alors, il a rencontré une dame. Une dame qui a 80 ans, qui s'appelle Madame Chaloff.
Ah oui, Margaret.
Vous en connaissez
pas ? Oui, moi je la connais par son petit nom.
Par son petit nom, Margaret Chaloff.
Voilà.
Allons-y.
La mère de Serge.
La mère de Serge, le baryton voilà. Célèbre. Alors, voilà ce que dit Kenny Werner. Elle m'a pris la façon parfaite de baisser un doigt. Je répète cette phrase, c'est baisser un doigt. C'était ma première rencontre avec l'absence d'effort. Et j'ai passé des mois entiers à apprendre à jouer une seule note. Alors vous voyez, là je crois que c'est le clou du livre. Vous voyez. C'est-à-dire que contrairement à tout ce que l'on peut imaginer, le problème c'est de jouer plein de choses, et se rend compte, on jouait des choses simples, puis des choses de plus en plus compliquées, puis on se rend compte qu'au bout du compte, il faut apprendre à jouer une note, et apprendre à respirer le temps du silence pour jouer la deuxième note. Mais comment jouer la première avec un beau son, et un son relâché, un corps relâché, et un son habité? C'est là tout le problème. C'est-à-dire qu'il faut peut-être avoir fait, et c'est là où le paradoxe du livre est intéressant, il faut peut-être avoir fait 20 ans de musique. Parce que c'est un livre peut-être dangereux aussi, on peut s'imaginer, on peut se faire un cinéma incroyable. Mais il faut peut-être faire 20 ans de musique, ou même peut-être plus, pour comprendre l'intérêt.
Vous savez que
vous voyez, c'est ça qui est incroyable dans ce
livre. Pendant que vous visitez les cimes, moi je suis grassement payé pour écrire les notes en bas de page. Alors, notes en bas de page, Margaret Chaloff, donc la mère de Serge Chaloff, était une professeure de piano classique réputée, mais qui se trouve avoir encouragé la carrière de nombreux musiciens qui, sans elle, ne seraient peut-être pas devenus des jazzmen. Ah. L'un des plus célèbres et l'un des plus originaux d'entre eux étant Dick Twardzik, qui hélas mourut à Paris lorsqu'il vint avec, il y vint avec Chet Baker en 1955.
Ah, mais j'ignorais ça, j'ignorais. Donc elle a.
Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup,
notamment celui-là. Notoriété.
Et au bout d'un certain temps, tous les types qui voulaient faire du piano de jazz, mais avec des bases très très solides, venaient à Boston pour la trouver. Il faut dire que c'était facile puisque Boston, capitale de l'enseignement et du classique et du jazz. Ça tombait bien.
Oui, je comprends bien. Non, mais là, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, en ayant un contact avec une personne aussi, il faut bien dire, une personne âgée, les images qu'on peut avoir de professeurs de piano, de âgés en général, c'est terrifiant. Marguerite Long ou autre, c'est terrifiant.
Serge Chaloff devait avoir une vingtaine d'années au milieu des années 40, donc on peut supposer qu'elle est née au début des années 20.
Alors voilà, mais alors ce qui est intéressant, c'est de voir comment une dame qui est aussi au fait des choses ne l'a pas mis dans une direction fausse. C'est-à-dire dans une direction illusoire, c'est de faire croire que plus on joue de la musique compliquée, difficile à exécuter, plus on fait de musique. Or ça, c'est un des grands problèmes. C'est-à-dire qu'on a l'impression, en avançant dans la vie ou dans la carrière, qu'il faut arriver à jouer des choses de plus en plus difficiles. Or, regardons Chet, et vous connaissez Chet mieux que moi, Alain, c'est que Chet, en jouant My Funny Valentine dans les années 50, c'est pas le même Chet qui joue My Funny Valentine à la fin de sa vie. Et pourtant, il a toujours ce même My Funny Valentine à son programme. Et il ne le joue pas de la même manière, parce qu'il habite les notes complètement autrement. Eh bien, ce livre de Kenny Werner, c'est tout cela que l'on apprend dedans. Et c'est en ça que c'est passionnant. Alors, je prends au hasard, parce que j'ai pris plein de notes. Je me suis dit, oh là là, je vais pouvoir...
J'espère que vous avez pris plein de disques en même temps, là.
Et, hein. Oui.
Parce qu'on parle beaucoup, je vous le fais remarquer.
Alors, justement, alors, puisqu'on parle beaucoup, je vais simplement lire le texte qu'on va entendre maintenant. C'est la première méditation. Et on va l'entendre parler avec la musique derrière. Et il dit la chose suivante. Fermez vos yeux, plantez vos pieds solidement par terre, inspirez profondément, prenez une bonne inspiration, accordez-vous ce qui vous revient, offrez-vous une merveilleuse inspiration profonde, inspirez de nouveau profondément et expirez lentement. Pendant que nous vivons notre vie jour après jour, le souffle est notre besoin le plus essentiel. Et pourtant, nous avons tendance à nous limiter à une respiration superficielle. Maintenant, en ce merveilleux jour de votre vie, inspirez profondément, inspirez votre moi, inspirez votre excellence. Aujourd'hui même, décidez de reconquérir l'excellence qui est présente en vous. Enfin, il y a beaucoup de choses, vous voyez, ça va dans ce sens. Alors, je laisse un peu deviner, on va continuer le texte, je ne le traduis pas au fur et à mesure. Il y a juste les quelques phrases à la fin, on va laisser le texte se dérouler en anglais. Il conclut, une nouvelle fois, inspirez profondément. Et expirez lentement, inspirez profondément, expirez lentement, détendez la tête, le visage, laissez se détendre vos joues et votre mâchoire, laissez se détendre vos yeux et votre bouche, la langue, la gorge, les oreilles, laissez-les se détendre et imaginez que les ouvertures s'élargissent de plus en plus jusqu'à ce que votre être entière disparaisse. Voilà ce que nous allons entendre.
Meditation number one. Close your eyes. Put your feet squarely on the floor. Take a nice deep breath. Take a good one. Don't cheat yourself. Give yourself a beautiful deep breath. Take another deep breath. And breathe it out slowly. As we go through our lives day by day, the most essential thing is a deep breath. Yet we tend to take small ones. Right now, on this beautiful day in your life, breathe in deeply. Breathe in your own self. Breathe in your own greatness. This very day, commit yourself to reclaiming the greatness inside you. Breathe in and connect with the seat of your power. Magnificence. Take another deep breath and really enjoy it as if I had said, have another piece of pie. Imagine I baked a big, delicious pie. The piece I gave you really wasn't big enough and you just had to have some more. Right now, treat the air like that. Treat your next breath as if it was a craving. And begin to relax. Start to feel your body relaxing. Feel relaxation from the top of your head on down. If any clothing you're wearing is uncomfortably tight, Loosen it a bit. Loosen your belt if necessary. Take off your shoes if they bother you in any way. Make yourself as comfortable as possible. Let this moment be a holiday from perpetual discomfort. Take another deep breath and exhale slowly. And another deep breath. And exhale slowly. Now relax your head and your face. Let your cheeks relax and your jaw. And let your eyes relax and your mouth, your tongue, throat, and ears. Let them relax and imagine the canals are getting wider and wider until your whole head disappears. I am great. I am a master.
Mon cher Alain, vous voyez comment on vit le temps. Et là, il donne des exercices qui sont millénaires, qui existaient dans les civilisations anciennes. Donc, il n'y a rien de nouveau, là. Il y a un travail d'autosuggestion, etc. C'est tout ce qu'on veut, de mise en condition, en fait. Mais en réalité, par exemple, lorsque nous venons au micro, là, le premier réflexe que j'ai quand je rentre dans le studio, c'est de baisser mes épaules. J'arrive ici, la lumière rouge s'allume. Premier réflexe que j'ai, bon, pour essayer de prendre le temps, c'est physiquement travailler pour baisser les épaules. Et au concert, ou quand je joue, premier réflexe, physiquement, c'est un automatisme, j'allais dire. Je m'assois et je me rends compte que j'ai les épaules hautes, que donc je suis vers le haut. Et la première réflexe, c'est un réflexe physique automatique. Je baisse les épaules pour essayer de me calmer intérieurement.
Vous allez faire des envieux. Hein. Il y a tellement de gens qui ne pénètrent dans cette maison qu'en rentrant la tête dans les épaules.
Alors écoutez, Alain, mais c'est, vous voyez, c'est une manière de vivre le temps. C'est ça qui est extraordinaire dans ce travail, qui fait qu'en fait, et d'où tous ces chapitres répétés, inspirés par la peur, c'est-à-dire qu'on veut le résultat, donc on répète, on est dans une angoisse permanente, vous allez me dire que c'est un lieu commun, c'est notre civilisation qui est comme ça. Mais le travail d'instrument qui est fondé sur le contraire, ça c'est extraordinairement
ça signifie que le inspiré par la peur, il ne faut pas le prendre comme une injonction.
C'est-à-dire, il faut le prendre sous différents. Il faut apprendre à vivre avec la peur, j'allais dire, qu'il y a, et de manière à ce qu'elle disparaisse progressivement. À ce que ce ne soit pas une entrave, comme l'enseignement qui est inspiré par la peur, parce qu'en fait, il y a aussi une chose entre nous. Si un professeur est mécontent de son élève, c'est pas tellement à cause de l'élève. C'est parce que lui, il a peur de montrer quelque chose. C'est le professeur qui est en cause, c'est pas l'élève. Vous comprenez, c'est ça qui est terrifiant dans le monde dans lequel nous vivons.
Je ferai une remarque cette fois dans la marge du texte. C'est que, en quelque sorte, là, il a prouvé le mouvement en marchant. Parce qu'utilisant cette technique, il se paye le luxe, n'étant pas comédien, de lire remarquablement bien un texte qui aurait intimidé beaucoup de comédiens. Parce que, en raison du fait que, d'une certaine manière, il ne pose sur la table que des vérités premières.
Absolument.
C'était le genre de texte où l'on risquait fort d'être ridicule.
Absolument.
Alors, en le disant.
Alors, c'est ça. Absolument.
Et il n'est pas du tout.
Alors, il n'est pas
du tout.
Il y a même
une certaine charge poétique. Enfin, c'est étonnant.
C'est bien pour ça que je l'ai choisi. Alors, il y en a quatre, imaginez-vous. J'en vais pas, je l'ai passé. Une précision. Ce texte dure 21 minutes. Nous en avons passé 4 minutes 27 et juste j'ai demandé à ce que l'on saute juste pour entendre la dernière phrase des 21 minutes 28. Mais en réalité, on s'imprègne d'un état. Alors, bien entendu, il y a toute une progression dans le livre qui amène à différentes méditations successives jusqu'à la dernière, la quatrième, qui dure également un certain temps. Mais tout ça est amené avec, et vous remarquez, à très juste titre, le son de la voix et le débit. Autrement dit, lorsque l'on sait prendre son temps avec les mots, lorsque l'on sait prendre son temps dans la vie, on travaille déjà la musique, parce qu'il n'y a pas de différence, et chez Kenny Werner, c'est une évidence, il n'y a pas de différence entre l'homme et le musicien qui joue. Vous voyez, un peu comme on évoquait Chet tout à l'heure, il n'y a pas de différence entre la vie de Chet et ce qu'il joue. Quoi. Il est là, il est comme il est, vous voyez, c'est comme ça, quoi. C'est apprendre ou à laisser. Quoi.
Il y a, dans le cas particulier de Kenny, une différence énorme entre l'homme et son enveloppe. Parce que moi, je me souviendrai toujours l'avoir amené avec moi dans cette maison.
Oui.
Et il faut bien voir que Kenny Werner est un homme dont chaque doigt est une saucisse de morteau.
Oui, c'est bien sûr.
Des doigts absolument énormes, des boudins, il n'y a pas d'autre mot. Et je l'ai vu poser ses boudins sur un piano droit qui traînait dans un coin dans cette maison et en produire une musique cristalline. Ah, c'est très, très étonnant.
Mais mais alors, ça, d'où ça vient, ça? Justement, c'est pas par hasard qu'il a ses doigts comme ça. Il se les est formés progressivement par toute une série d'exercices qui sont le travail de l'ombre.
Et c'est pas un homme fluet, hein, de toute façon.
Mais ces exercices, c'est ça qui est formidable. C'est que ces exercices, il le dit d'ailleurs, il y a un endroit qui est merveilleux, c'est à la fin du livre, c'est l'exercice de 5 minutes. La technique des 5 minutes, vous le croiriez? Page 167, c'est incroyable. Il dit, dites-vous que vous allez juste répéter pendant 5 minutes. Souvent, ce n'est pas l'exercice même qui est le problème, c'est le fait de s'y mettre. Autrement dit, vous vous y mettez et vous vous dites, oh là là, je vais commencer là, j'en ai pour 2 heures, et vous perdez votre temps. Et si vous dites, j'y vais juste pour à peine y toucher, vous êtes disponible pour le faire. Et vous allez, vous faites ce que vous pouvez, et tout à coup, vous faites effectivement 1 heure, sans vous en rendre compte, mais totalement habité. Vous comprenez, c'est
formidable. C'est la ruse domestique de 99 écrivains sur 100.
Ah, j'ignorais ça.
Aujourd'hui, je ne fais qu'un feuillet. Grâce à ça, on peut démarrer.
Alors, ça, c'est formidable.
Parce que si on arrive avec aujourd'hui, j'ai mes 5 ou 6 feuillets à faire, alors là
ça devient
très
mal. Oui. Alors, on est très mal. Alors, ça, c'est formidable. Alors, vous voyez, ce qui est encore plus passionnant, c'est que cet ouvrage va beaucoup plus loin que l'enseignement de la maîtrise sans effort. C'est une leçon de vie, tout simplement. Alors, moi, je vous propose quand même, on va écouter de la musique. Alors, on va écouter un morceau.
Mais c'est une... J'y reviens toujours à cette idée. Ce qui me paraît essentiel dans cette leçon-là, c'est que, pour reprendre une formule qui était de Jean Cocteau, elle consiste à déniaiser la banalité.
Parce que
c'est banal.
J'aime bien cette
expression. Sauf que ça marche si on le déniaise.
Alors,
si on va chercher, au fond de ces préceptes qui ont l'air simples, voire simplistes, une vérité qui, elle, est cachée.
Absolument. Et elle est cachée, mais
qui est fertile.
Et qui est très fertile. Mais justement, quand on a 20 ans ou 25 ans, on ne peut pas croire à ce genre de choses. Vous voyez, c'est là où on a l'impression...
Ne doit-on pas croire à ce genre de choses.
Alors, c'est peut-être nécessaire de ne pas le croire.
Parce que si vous dites « je suis là et ça viendra dans 40 ans », c'est un peu difficile.
C'est un peu dur, c'est vrai.
Oui.
C'est vrai. Alors, par exemple, il y a aussi un autre aspect, juste avant de passer de la musique. Et par exemple, il dit « les fausses notes n'existent pas ». C'est formidable. Parce que la première chose qu'on apprend, que les musiciens classiques apprennent dans le conservatoire, c'est à les rendre justes.
Voilà, ce qu'on joue après.
Alors, vous jouez une note. Et la deuxième, c'est pas non, c'est pas ça. C'est vous venez de faire un si bémol, c'est un si bécard. Alors, déjà, vous avez à peine commencé quand, si vous voulez, le flux naturel du rythme que vous avez en vous, il est déjà brisé. Vous comprenez? Et cette brisure, elle ne fait que s'accentuer avec les années, parce que l'objectif est d'arriver à ne jouer aucune fausse note, et sans forcément habiter. Alors je suis peut-être excessif là, mais je m'emballe. Vous m'en voudrez pas, Alain. Je m'emballe parce que j'ai un débit moi-même là. Je suis tellement pris par ça que je me rends compte que je travaille, comme je suis d'un naturel assez nerveux. Eh bien, je travaille continuellement sur moi-même, justement, pour contrecarrer, avoir l'énergie que j'ai, et contrecarrer ce flow que j'ai, qui est à l'encontre de ce que dit Kenny Werner. Parce que notre auditeur, il dit, Kenny Werner parle comme ça, mais Georges Pasinski, qu'est-ce qu'il fait? Il parle 10 fois plus vite. Vous comprenez? Il y a une ambiguïté, là. Mais ça, c'est ma personnalité qui est comme ça. Alors, il dit, pourquoi les fausses notes n'existent pas? Si le musicien qui joue des notes discordantes les traite comme si elles étaient harmonieuses, l'auditeur les percevra aussi de cette façon-là. C'est-à-dire, il y a une manière de fluidifier le temps. C'est ça qui est un des grands secrets. C'est d'ailleurs de faire, autant que possible, plus de fausses notes possibles pour, au fur et à mesure des années, en faire un peu moins. Pour un jour, finalement, faire une musique qui est même très belle dans son résultat.
Mais l'assimilation de la fausse note par la beauté est d'ailleurs reconnue depuis longtemps, et en tout cas dans le jazz, depuis que Coleman Hawkins avait eu cette remarque, je trouve très belle à propos de Pee Wee Russell, oui. Il joue faux à la perfection.
Ah voilà, ça c'est magnifique. Alors écoutez, je vous propose d'écouter, merci Alain. On va écouter maintenant Beauty Secret avec Drew Grace à la contrebasse, Billy Hart à la batterie, et nous sommes au mois d'avril 1999.
Donc précisons-le, c'est une version différente de celle dont j'ai fait entendre un petit soupçon tout à l'heure.
Absolument.
Kenny Werner, Beauty Secrets, la version d'avril 1999 avec le contrebassiste Drew Grace et le batteur, presque un vétéran aujourd'hui, Billy Hart. Il y a une chose qui apparaît, je ne sais pas s'il parle de ça dans son livre, mais une chose qui me frappe, il se trouve que le piano, d'une certaine manière, est lui aussi un instrument à cordes. Et on a affaire à un musicien qui, au piano, joue formidablement de l'opposition arco-pizzicato. Comme avec un instrument à cordes tel qu'une contrebasse ou un violon. Alors, je trouve qu'il y a, dans sa manière de procéder, une assez étrange et très, très prenante alchimie, puisqu'il s'agit, d'une part, ça on l'a bien compris à travers le texte que nous écoutions tout à l'heure, transformer la passion en patience, mais ce n'est pas tout. Transformer la patience elle-même en passage et... C'est là quel paradoxe, en passage vers l'urgence. Mais l'urgence de cet essentiel qu'il faut taire, d'après le philosophe dont vous parliez tout à l'heure. Et qui finalement ne sera pas dévoilé. On sait simplement que si l'on avait fait un pas de plus, on pouvait le toucher du doigt.
En fait, vous avez très bien résumé la situation. En poussant le bouchon encore un peu plus loin, il faut s'abstraire de l'ego. C'est-à-dire, en quelque sorte, de mettre entre parenthèses cette volonté que l'on a pour faire jaillir quelque chose qui nous habite d'une façon totalement naturelle, sans vouloir prouver qu'on sait faire les choses.
Ben les différents... Non, je dirais une seule chose pour, en un simple jeu de mots, résumer les choses, c'est qu'il s'agit d'un jazz de monstration et pas de démonstration. C'est tout le contraire.
Alors, mais il y a aussi, dans ce que nous avons entendu, une musique magnifique, vous me l'accorderez, il y a un toucher. C'est le toucher, vous comprenez. Tout est dans le toucher. Et d'ailleurs, c'est tout à fait étonnant, toutes les étapes qu'il propose, Kenny Werner, dans son ouvrage. L'étape 1, vous avez appris à toucher votre instrument depuis l'espace où aucun effort n'est requis, et de jouer une note ou plusieurs notes pendant que le rapport s'établit. Lors de l'étape 2, vous vous êtes exercé à rester dans cet espace pendant que vos mains se déplacent, prenant leurs propres décisions. Vous avez résisté à la tentation d'organiser la matière en idées musicales. C'est-à-dire pas d'idées préconçues. L'étape 3 vous a démontré comment jouer de la musique en vous investissant un minimum. Parce que de toute façon, c'est le maximum que vous voulez donner. Vous comprenez que c'est ça qui est extraordinaire. Et ça continue après, il y a l'étape 4, etc.
Très étrange aussi dans cette affaire, c'est que lorsqu'on parle de toucher, et notamment au piano, mais c'est vrai aussi sur la batterie, pour ne citer qu'un seul exemple, c'est que le toucher, ça n'est pas une affaire de gymnastique. Une affaire de couleur et de lumière.
Alors, c'est merveilleux, parce que là, vous m'entraînez sur un terrain. Vous savez, il y avait cette dame qui s'appelle Marie-Jaël, qui était une élève de Liszt, qui avait rencontré Liszt et qui a fondé son travail sur les doigts.
D'évoquer ce personnage.
Voilà, c'est un personnage étonnant, avec les couleurs, tout ça, les doigts, les empreintes digitales, l'art du toucher, les rythmes du regard. Vous vous rendez compte? C'est une femme qui a travaillé les rythmes du regard. C'est-à-dire quand on l'a dit, ou je vous l'ai dit dans cette émission une fois, lorsque vous promenez dans notre studio ici, le regard autour du studio, vous ne voyez que par plan. Vous ne voyez pas une continuité. Vous voyez que par plan, par petits bouts successifs, elle a travaillé le fait de que ça passe régulièrement. C'est merveilleux. Elle rejoint Kenny Werner d'une façon magnifique et magistrale. Alors vous voyez, là, c'est ces choses-là, ce sont les choses de fond que l'on touche en fait, que l'on aborde rarement, peut-être par pudeur, peut-être par... par manque peut-être de, je ne sais pas, par humilité ou
c'est
par...
C'est très difficile à manipuler.
Parce que c'est très difficile.
De façon conceptuelle.
Voilà, il faut demander aux gens de s'exercer, en fait. Et la musique, quand il disait que tous les gens sont des parts musiciens, c'est vrai. Mais les gens ont quelque chose en eux. Et c'est quelque chose qui, lorsque je disais baisser les épaules, fait que la personne est facilement abordable. C'est-à-dire qu'on peut aborder la personne sans que la personne vous toise. Vous voyez, il y a tout un approche de l'autre. En fait, c'est le contact avec l'autre qui est capital. Vous voyez, ça, c'est formidable. C'est le fond de la musique, là.
Deviens ce que tu es. Hein, le fameux principe socratique. Alors, nous sommes tous musiciens, mais très peu d'entre nous parviendront à le devenir réellement, en dépit de ça.
Tout à fait. Et le 24e chapitre, qui est la conclusion de cet ouvrage, parce que malheureusement, j'aurais aimé parler tellement de choses, Alain, mais il dit la chose suivante. Rien n'a vraiment un sens. Peu importe le succès qu'on obtient, peu importe le degré de maîtrise qu'on atteint, si on ne dédie pas ses prestations au pouvoir divin, comme il dit, à Dieu si vous voulez. Tout enseignement, voilà la chose capitale, tout enseignement spirituel confirme qu'il vaut mieux donner que recevoir. Et l'artiste doit occuper la position qui lui revient de droit dans la société en tant que professeur, métaphysicien et visionnaire. L'action sans effort, c'est laisser le pouvoir supérieur jouer la musique. Autrement dit, c'est quelque chose d'autre qui habite l'homme, qui transmet quelque chose qui l'habite.
Moi, j'admettrai une petite nuance. C'est pas tant qu'il serait préférable de donner plutôt que de recevoir.
Oui.
C'est que c'est plus agréable et plus facile, en fait, de donner que de recevoir. Oui. C'est beaucoup plus difficile de recevoir.
C'est vrai aussi. Il faut savoir recevoir. Parfois, on n'est pas prêt à recevoir.
On peut adapter ça à la situation de plusieurs musiciens qui se trouvent ensemble. Hein.
Mais exactement.
C'est difficile d'être accompagné, mais c'est peut-être beaucoup plus difficile encore d'être accompagné.
C'est très certainement le cas. Et ça va encore bien au-delà, puisque c'est finalement une leçon de vie que Kenny Warner nous donne, vous comprenez. C'est ça qui est extraordinaire. C'est bien au-delà de l'instrument de musique. C'est une façon d'aborder la vie et d'aborder la mort, finalement. Voilà, nous allons entendre un dernier enregistrement, Alain. Alors, c'est un morceau, alors je passe sur la méditation numéro 4, qui conclurait exactement comme ce que nous avions vu au départ, qui est un développement. Mais là, on va entendre de la musique énergique. Et nous sommes au Sunside, ou un club à Paris, le 23, 24, 25 novembre 2000, avec Johann Weidenmüller et Harry Hoenig. Et c'est le morceau qui s'appelle « Beat Degeneration ». Thank you.
une leçon de Kenny Werner. Vous en profitiez grâce à Georges Paczynski, lecteur comme toujours attentif et même pénétrant d'un ouvrage du maître paru aux éditions Uncle Jazz et intitulé « La maîtrise sans effort », ce qui est certes plus recommandé que l'effort sans maîtrise. Françoise Cordet est l'âme de cette émission, vous le savez, et à côté d'elle, il y avait le Zorro de la Maison Ronde, qu'on ne reconnaît qu'à son masque. Comme tous ces gens manquent cruellement d'originalité, je suis désolé de le dire, ils m'imitent et vous souhaitent donc, tout comme moi, la meilleure des fins de journée possibles.